de Zeus.
Bonjour.
Qu'est-ce qui se passe?
Je ne peux pas vous le dire.
Je vous demande une seconde le temps d'installer le prochain film.
Vous me recevez à vous parler.
Qui êtes-vous?
Je n'en sais rien. Et je compte bien le découvrir.
Fini la rigolade.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort moelle-l'œil? Qu'est-ce que vous faites?
Votre émission hebdomadaire sur le cinéma.
Vous avez une autorisation?
Bien entendu, j'en ai une.
Cinérama.
Ce nom, je l'encaisse pas.
Ben ça, c'est ton problème.
Chronique, blind test, interview.
Eh ben, c'est génial.
Amusez-vous bien.
C'est gentil.
Tout le plaisir est pour moi.
Bonjour et bienvenue, une demi-heure pour parler du cinéma, c'est Cinérama, avec des chroniques, des films qui sont dans les salles, et puis aussi un blind test aujourd'hui, celui d'un grand réalisateur, c'est Steven Spielberg, parce que tu as pu voir son dernier film qui est déjà dans les salles.
Oui, je vais vous parler de Disclosure Day.
Et puis tu nous parleras aussi d'une reprise.
Oui, je vais vous parler du retour sur les grands écrans pour ses 30 ans de Ghost in the Shell de Mamoru Oshii.
Et puis toi, Sophia, tu as vu un film qui a fait sensation à Cannes.
Oui, un film d'animation, le premier long métrage du studio d'animation Bobby Pills, et il s'agit donc de Jim Queen.
Et puis moi, je vous parlerai aussi d'un film qui était à Cannes et qui a remporté un prix, c'est Shanna de Lila Pinel. Allez, on commence avec une icône de la scène queer parisienne, Jim, qui voit sa vie basculer lorsqu'un virus transforme les hommes homosexuels en hétérosexuels, l'entraînant dans une quête de survie et de remède. Nous parlons de Jim Queen.
Dans la vie, quand une chose n'est pas sérieuse, on dit c'est du cinéma.
Cinérama.
Nous en parlerons tout à l'heure.
Alors Bobby Pills, ce nom vous dit peut-être quelque chose si vous avez déjà regardé les Cassos sur YouTube ou Canal+. Vous voyez très bien de quoi il s'agit. Ce studio d'animation français s'est spécialisé dans une animation pour adultes, très identifiable, trash, politique, irrévérencieuse, souvent très crue. Ils ont aussi signé pour HBO des productions courtes comme Pipoudou and the Super Fuck Friends, je ferai pas la traduction, entre éducation sexuelle délirante et humour volontairement débridé et provoque. Pour la première fois, le studio est passé au long métrage avec un financement participatif pour ce Jim Queen, co-réalisé par Marco Nguyen et Nicolas Attané, présenté en séance de mini au Festival de Cannes et déjà donc remarqué avec une nomination pour la Caméra d'Or et la Queer Palm. La projection a en effet été l'une des plus festives de cette édition, ce qui n'est pas un mince exploit dans un Cannes souvent un peu coincé du guidon.
Salut, moi c'est Jim.
Qu'est-ce qu'il est beau!
Tu veux un tuto taille mannequin? Retrouve tous les conseils dans mon bouquin. Hey, salut sexy. Salut, ça va?
Bonjour Jim.
Ah,
je suis votre premier fan. Je pourrais avoir un selfie?
Quel enfer!
Fais-moi monter, Jim!
Nous sommes à Paris, dans un Paris uchronique où, petite inversion de la norme, l'homosexualité est majoritaire. Et dans ce Paris-là, Jim Parfait est une star. Sa voix, c'est celle d'Alex Ramirez, que vous connaissez peut-être de quotidien. Et Jim, c'est le roi du dance floor et de la salle de sport. Icône donc des Jim Queens, reine de la salle. Cette communauté d'accros à la gonflette et aux abdos saillants qui colonisent certains quartiers parisiens. Il a des millions de followers, des pectoraux parfaits, un fessier qui fait l'unanimité, sauf que Jim contracte l'hétérose, un virus impitoyable qui transforme les hommes gays en hétérosexuels. Les symptômes, un premier abdo qui disparaît, puis un intérêt soudain pour le foot, les claquettes chaussettes, les femmes, le monospace, une catastrophe quoi. Tandis que l'épidémie menace toute la communauté et qu'une ministre de la santé homophobe, nommée Christine Bayer, un clin d'œil totalement assumé à Christine Boutin et au laboratoire Bayer. Donc pendant que cette ministre orchestre la répression, Jim se retrouve avec plus qu'un seul follower, Lucien, un twink, comprenez jeune homme gringalet, imberbe et angélique, dans la nomenclature consacrée. Lucien, qui à contrario de Jim est romantique, timide et refoulé, est doublé par Jérémy Gillet. Et alors qu'il peine littéralement à sortir du placard, la tâche n'en est que plus ardue pour lui puisque la dite ministre homophobe est sa mère. Ensemble, Jim et Lucien contactent le docteur Ragout et partent en quête du remède mythique, la chloroquine.
Ah, Jim Parfait a embrassé une fille.
Qu'est-ce qui m'arrive?
Concert de Lady Gaga annulé et scène de panique dans le marais.
Ils arrivent tous les jours, de plus en plus nombreux. Des intérêts pour le culte du corps. L'apparition de fashion faux pas. Tu as contracté une nouvelle maladie qui s'appelle l'hétérose.
Quoi? Tu vas devenir
hétérosexuel.
Ce qui est remarquable avec Jim Quinn, c'est que le film ne fait pas semblant d'être autre chose que ce qu'il est. C'est vraiment une comédie d'animation pour adultes, graphiquement simple, avec des aplats de couleurs acidulés, un trait volontairement grossier qui est la patte Bobby Peels, reconnaissable entre mille, avec des cassures de gestes, des coupes franches qui empruntent autant à l'humour internet qu'au cartoon américain classique. Ce que Nguyen et Atané ont compris, c'est que le meilleur outil politique de la communauté LGBTQIA+, a toujours été l'auto-dérision. Et ici, alors tout le monde en prend pour son grade. Les gym queens, hein, donc ces reines de la salle de gym, et leur culte obsessionnel du corps, les hétéros avec leurs clichés de supporters gras du ventre, mais aussi la hiérarchie interne à la communauté queer, donc ces clans, ces intolérances, ces snobismes de chapelle. Personne n'est épargné et c'est vraiment jouissif. On retrouve là l'esprit des grandes satires queer qui utilisent l'humour comme arme politique, tout en assumant un goût prononcé pour l'absurde et le mauvais goût revendiqué. L'animation de Bobby Peels évoque parfois les délires de Rick and Morty ou de South Park, mais avec une sensibilité très française et un regard bien plus tendre sur ces personnages. Hein. Derrière la moquerie permanente, le film ne juge pas vraiment celles et ceux qu'il caricature. Bref, la bande-son est superbe, le casting vocal impeccable, on retrouve Shirley Soignon en Nina, la bonne copine médecin et reine de la nuit, et même l'incroyable Philippe Catherine dans la voix de la prostate de Lucien à qui il parle dans une espèce de vision complètement hallucinée, une sorte de consultation urologique sous acide, véritable trip psychédélique. Le film se permet ce genre d'absurde démesuré parce qu'il est ancré dans quelque chose de vraiment sincère. La grande réussite scénaristique réside dans ce personnage de Lucien, hein, son arc d'émancipation, de coming out, d'apprentissage. C'est traité sans morale moralisante. La résolution du film évite surtout le piège du grand discours sur l'amour comme remède qui guérit tout. Et sans trop en révéler, bah, l'antidote, en fait, eh bien, c'est le cul. Ce qui est franchement une prise de position narrative à saluer.
Ah, j'ai les taureaux, docteur.
Aidez-moi, je vous en prie.
Vous connaissez Lucien. Sans lui, il m'est impossible de synthétiser la chloroqueer.
La chloroqueer.
Le remède à l'hétérose.
Pour m'accompagner dans l'aventure, j'ai pensé à toi.
Ça veut dire qu'on va pouvoir sauver les hétéropositifs ?
Yes !
Je sais ce qu'il me reste à faire.
Lucien, attends !
Tu ne fais rien pour attendre, Jim, parfait.
Mais vous êtes complètement taré !
Un seul faux pas et tu sers de 4 heures à tous les daddies du quartier.
Qu'est-ce qu'il va nous faire ?
C'est quoi ce bordel ?
Lucien. Toi seul, tu peux sauver le monde.
Mais qui êtes-vous ?
Je suis ta prostate, Lucien.
Jim Quinn est un pamphlet animé, débridé, généreux, qui retourne les mécanismes de la norme contre ceux qui n'ont jamais eu à les interroger et qu'il fait en rigolant franchement. En 2026, dans un contexte où les droits LGBTQIA+, reculent dans trop de pays, ce genre de film compte. Pas parce qu'il prêche, mais parce qu'il célèbre avec un trait de crayon grossier, beaucoup de muscles et du panache. Franche partie de rigolade donc à partager et surtout, ne partez pas avant la fin du générique. C'est un gros Yes Queen et Yes Jim.
Donc restez sur la fin de cette comédie d'animation pour adultes, Jim Quinn, dans beaucoup de cinéma du territoire. Entre galères du quotidien, héritage mystérieux et retour d'un compagnon toxique, Shana tente de garder le cap. Nous en parlons maintenant.
Non mais bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
This is Cinerama.
Vous ne m'êtes pas très sympathique.
Genre, j'ai envie qu'il me prenne un peu de la graisse de là, genre judo comme ça. Et il me la remet genre harmonieusement.
Mais non, t'es très bien comme ça en fait.
Il y en a encore pour longtemps là, ça fait une heure que j'attends.
Bah c'est bon, on est au grec madame, on n'est pas au Phuket, faut se calmer.
Shana de Lila Pinel est reparti de Cannes où il était programmé à la quinzaine des cinéastes avec le prix SACD. Mais si, vous savez, la SACD, cet organisme qui gère les droits d'auteur et qui a donné puis retiré un prix à Pierre-Emmanuel Barré. Alors, aux dernières nouvelles, la réalisatrice de Shana n'a fait aucun écart blâmable. Donc, elle conserve son prix et voit surtout son film sortir sur les écrans où il serait bon qu'il reçoive l'accueil qu'il mérite, soit le meilleur. Le titre ne fait aucun mystère hein, sur le personnage que nous allons suivre. C'est Shana, une vingtenaire gouailleuse issue de la classe moyenne juive séfarade, mais qui n'en dit jamais mot à ses copines. Shana et la voix off, qui est la sienne, nous en informe, est dans le camp des galériennes et des poissardes. Elle est sous l'emprise toxique d'un homme en prison pour lequel elle poursuit le business, c'est-à-dire qu'elle vend de la cocaïne à des clients qui ne la paient pas toujours bien. Et avec ça, elle pique dans la caisse. Alors autant dire qu'on sent bien que sa situation pourrait ne jamais s'améliorer.
Il faut savoir qu'aujourd'hui, je suis une personne hyper sérieuse. J'ai un travail, je suis indépendante, j'ai une vie qui est carrée.
À 17 ans, moi, j'étais déjà mariée.
Ah, c'est bien.
Si j'ai un conseil, moi, à te donner, évite les Arabes.
Mais tu sais que c'est raciste, là, ce que t'es en train de dire. En plus, t'es arabe, t'appelles Myriam et tu manges du couscous, donc arrête de t'inventer une vie, s'il te plaît.
Alors ça, c'est sa grand-mère qu'on entend, c'est une marocaine, mais juif, voilà, c'est Farhad. La grande force de ce long métrage, c'est de s'appuyer sur le jeu tout en force de son interprète, Eva Uho, qui n'a rien du physique des jeunes premières, mais qui aura sûrement sa nomination au César, j'y compte bien. Habillée de jupe courte, lèvres botoxées que lui reproche sa mère, à qui elle rétorque qu'elle aime bien, elle, ses lèvres de suceuse, alors que toute la famille est à table en train de deviser sur une question morale et politique. Donc Shana est une fille en rupture, rien n'est simple, ni avec sa famille, de laquelle elle aimerait s'éloigner, mais sans y parvenir, n'appréciant pas plus que ça bien ses élans pour la bar mitzvah et bien toutes les autres manifestations religieuses, hein, finalement, ni avec ses copines, même si elle y trouve un peu d'écoute. Et rien n'est simple non plus avec son homme qui sort de prison. Alors ce dernier s'appelle Moïse, un prénom qui ne tient rien au hasard, car le film débute avec des iconographies des 10 plaies d'Égypte, tiré d'un livre d'enfant qui a traumatisé la jeune fille. À l'image de ses plaies, Shana doit sans cesse faire face et se relever.
Ça va ou quoi, la meuf ?
Ça va ?
Elle va vendre ses chaussettes sales sur le bon coin.
Mais tu peux pas aller travailler comme tout le monde.
Mais je travaille, en fait. Qu'est-ce que tu fais avec un mec comme ça ? Et pas son temps à faire les allers-retours en prison.
Non mais Shana, faut que tu quittes Moïse, là, pour de vrai.
Il sert à rien, frère.
Il manque 3000 euros ! Va chercher mon oser !
Tiens, cadeau de ton kebab. Tu sais, il sort vendredi. T'es sérieuse, là ?
Alors précisons, hein, pour pas filer la métaphore de la Bible, hein, que dans la trajectoire de Shana, ce n'est pas Moïse qui pourrait la sortir de la galère, si l'on peut rire assez facilement de nombreuses situations qui font place à des dialogues très ancrés dans le phrasé populaire des jeunes, hein, l'emprise toxique masculine prête évidemment moins à rire, pas plus que les explications que Shana donne, qui arrive à justifier la violence, que celle que donne sa copine, elle aussi victime d'un compagnon violent dont elle ne peut se séparer, l'emprise semble systémique.
Je l'ai pris de l'argent dans sa caisse, il va me tuer, j'ai besoin de le rembourser.
Non, mais j'en ai rien à foutre, Shana, j'en ai rien à foutre.
J'essaye de tout faire bien, mais y'a rien qui va.
Je me suis occupée de toi, j'ai fait tout ce que j'ai pu, franchement.
Bah t'as pas fait beaucoup.
Viens, on glow up, on les tèche, ces mecs de merde. On avance, mais... girl power.
T'es fini, me rappelle pas, je te bloque. Ta gueule. Pardon.
Shana est le portrait d'une jeune fille de son temps qui tente de trouver son chemin malgré les embûches qui sont celles, eh bien, qu'elle rencontre, résultat de son comportement et de ses actions, mais aussi de son passé qui, on l'apprend, n'a pas été simple, raison pour laquelle d'ailleurs la famille n'est pas forcément une bouée. Le récit est aussi enlevé que son interprète, oscillant entre scènes où l'on parle fort et moments plus calmes. Si au premier abord, cette Shana que l'on voit mauvaise joueuse lors d'une partie de Loup-garou en ouverture du film pourrait paraître presque antipathique, elle nous met rapidement dans sa poche et l'on a hâte qu'elle se pose un peu. Il y a quelque chose, en revanche, de très étonnant dans ce film, c'est qu'effectivement, on entend la voix off au début du film, et puis au bout d'un moment, cette voix off disparaît complètement, et on ne fait que suivre ce qui se passe avec son interprète. Ce film, Shana, est en salle depuis le 17 juin. Quand la révélation d'une possible présence extraterrestre menace de bouleverser l'humanité entière, chacun doit faire face à une vérité impossible à contenir. Nous parlons du dernier film de Steven Spielberg.
Par ici, s'il vous plaît.
Cinérama.
Ah, mais avec joie.
Si tu découvrais que nous ne sommes pas seuls. Si quelqu'un te le montrait. Te le prouvait. Ça te ferait peur ?
Et oui, on l'aura lu et vu partout, hein, avec Disclosure Day, hein, Steven Spielberg revient à un genre en particulier, et pas n'importe lequel, puisque c'est celui de la science-fiction. Alors beaucoup espéraient une suite de Rencontres du Troisième Type, E.T., voire de La Guerre des Mondes avec ce fameux Jour de la Révélation. Sauf que Spielberg n'a jamais fait deux fois le même film, hein, et qu'il va en profiter pour signer sans doute l'une de ses œuvres les plus singulières de sa carrière. Alors lui qui est habitué à être nommé le père du blockbuster moderne, il va certes délivrer un film de science-fiction, mais qui ne s'intéresse finalement que très peu aux grand spectacle et aux extraterrestres. Alors cette fois-ci, hein, ce qui fascine Spielberg n'est pas ce qui se trouve là-haut, c'est ce qui se trouve ici, entre nous.
Bonjour, Kansas City. Jetons un œil à la situation. Jetons un œil à... Aujourd'hui, nous sommes... Aujourd'hui.
Oh. Alors exit, hein, la bande-annonce au final trompeuse, hein, Disclosure Day n'est ni un film catastrophe, hein, ni un spectacle pyrotechnique à la Michael Bay, ni même un récit, hein, construit autour de la révélation d'une vérité cachée. Hein, Disclosure Day, c'est un film à suspense bâti tout entier sur un faux MacGuffin, hein, et en fait tout entier tourné vers la réflexion et l'acceptation, soit un voyage physique qui mène ses protagonistes et les spectateurs, hein, à un voyage intérieur. Alors plutôt que de montrer à notre habituelle crainte de l'inconnu, hein, qui débouche le plus souvent sur la souffrance, la haine et la mort, le jour de la révélation braque, hein, ses lumières sur notre capacité ou non à accueillir l'inconnu, hein, sur notre aptitude à écouter avant de juger. Et c'est pour cela, hein, que ces deux protagonistes principaux, bah, sont Daniel, un lanceur d'alerte, qui va s'allier avec Margaret, une présentatrice d'une chaîne de météo locale, hein, pour lever un secret que les autorités ont gardé secret depuis 70 ans. Alors tous deux, hein, spécialisés dans l'image, hein, la communication et la manière de communiquer ou non, hein, avec le grand public, bah, sont réunis par une expérience hors du commun, hein, jusqu'au bout, hein, d'une vérité que beaucoup ne pensent pas possible à digérer par l'humanité. Et qu'on ne s'y trompe pas, hein, c'est cette humanité qui est littéralement le cœur du sujet. Dans un monde traversé, hein, par les conflits, les divisions, hein, plusieurs guerres sont d'ailleurs évoquées, hein, en toile de fond tout au long, du récit, Spielberg choisit de détourner le regard des étoiles pour le tourner vers nous. La science-fiction est donc quasiment un prétexte, hein, permettant d'interroger notre rapport à l'autre, à la croyance et à ce qui nous dépasse.
Les gens ont droit à la vérité. Elle appartient à toute l'humanité, 7 milliards de personnes.
Qu'est-ce que c'est ?
Tu me croirais pas si je te le disais. Il vaut mieux que je te le montre.
Qu'est-ce que tu vas faire ?
Je vais tout révéler. Au monde entier. Une fois pour toutes.
Alors on l'a dit, hein, et sa filmographie parle pour lui, hein, le génial cinéaste n'a plus besoin de prouver sa maîtrise du spectaculaire. Et il sait également, hein, que l'émotion, comme l'émerveillement, hein, ne naît pas forcément de ce que l'on montre, hein, mais de ce que l'on suggère. Comme les textes sacrés, hein, auxquels le film fait constamment écho, hein, il préfère la métaphore à l'explication, le mystère à la démonstration, et placer le public en véritable acteur plutôt qu'en simple spectateur passif, ce qui ne manquera pas d'en gêner certains, hein, quant à l'issue du récit. Alors Disclosure Day est un peu, hein, comme l'une des épreuves d'Indy, dans Indiana Jones et la dernière croisade, hein, le saut de la foi. Pour avancer, il faut se faire confiance, hein, et faire un pas vers, dans l'inconnu le plus total, en guise d'épiphanie vers un lendemain meilleur. Cette dimension, hein, spirituelle irrigue l'ensemble du récit, car le film fonctionne comme une parabole de la foi. Il existe quelque chose de plus grand que nous, un univers bien plus grand qu'on ne l'imaginait, et notre responsabilité en tant qu'être responsable, philanthropique et bienveillant n'en est que plus grande.
Les gens se posent des questions. Ils sont confrontés à l'inconnu.
Ils arrivent ! Ils arrivent !
Ils ont une soif éperdue de vérité.
Il y en a d'autres, tu penses ?
Pourquoi aurait-il créé un univers aussi vaste ? Si nous étions les seuls à en profiter ?
Et oui, et pour que ça marche, bah, il fallait la pureté du regard d'un Spielberg. Disclosure Day est littéralement un conte initiatique pour enfants, et surtout, grands-enfants. C'est une parabole politique à peine cachée du monde trouble dans lequel on vit, et la forme du conte permet à Spielberg de se débarrasser du cynisme contemporain. Le piège serait de croire que c'est un film sur une révélation, alors qu'il adopte judicieusement les codes du road movie pour nous symboliser ce chemin que nous avons à faire, et que tout ce que l'on voit est simplement une préparation à cette fameuse révélation. Ce n'est pas innocent, hein, si le film s'ouvre comme Highlander d'ailleurs sur un match de catch, symbole de vraies prouesses physiques tournant autour d'un spectacle truqué. À presque 80 ans, c'est une proposition extrêmement audacieuse, hein, d'un conteur hors pair qui montre qu'il peut encore nous questionner sur notre rapport au spectacle tout en nous invitant à nous rassembler. Spielberg regarde le monde avec des yeux d'enfant pour mieux parler aux adultes, nous invite à regarder dans la même direction et surtout à écouter.
Et à se poser des questions, je me suis surpris pendant le film à me poser des questions sur l'immensité de l'univers, des questions voilà, pascaliennes comme ça. C'était assez intéressant. Et ce qui est intéressant, alors tu as dit plein de choses effectivement sur ce film, il y a aussi l'action qui est très forte, il y a des scènes d'action vraiment remarquables, et notamment une scène qu'il n'a pas pu faire dans Duel, une scène avec une voiture qui est prise par un train, c'est complètement impressionnant. Hein. Enfin,
et
voilà.
Ce qui est fort, c'est que bien évidemment, la scène d'action n'existe pas juste comme scène d'action, hein, vu qu'on est dans un road movie que tout le cheminement est un symbole, une voiture, puis monter sur un train, enfin, c'est incorporé dans la narration et les thématiques.
Et le train, on sait quelle importance ça a chez Spielberg après avoir vu The Fableman.
Ouais.
Alors, immense réalisateur avec une longue filmographie, on va quand même jouer un blind test. Il va falloir découvrir 5 titres de films du réalisateur américain qui en a fait plus de 40. Premier extrait.
Je sais bien qu'il y a urgence. Pour faire appliquer le touriste vu que le Pékin y met du beurre dans le plat d'épinards. Mais ça sera tout sauf de la rigolade. Ma peau, elle vaut davantage que 3 000 $, pas vrai, chef? Pour 3 000 $, je vous le trouverai. Mais pour l'attraper et le zigouiller, c'est 10 000 qu'il me faudra.
Bon, c'était facile.
C'était Les Dents de la Mer.
Eh oui, film de 1975, avec 3 Oscars à la clé. C'est l'histoire d'Amityland, une petite station balnéaire terrorisée par un grand requin blanc en plein été. Et face au monstre, eh bien, il y a le chef de la police locale, un océanographe et un vieux chasseur de requins un peu fêlé qui embarque sur l'orca pour une partie de pêche qui devient cauchemardesque. Ce film, Les Dents de la Mer, a fait plus de 6 millions d'entrées en France. Deuxième extrait, nous cherchons un film de Spielberg.
Quelqu'un peut me dire ce qui est logique dans tout ça? Je veux dire, ça rime à quoi de risquer la vie de 8 de nos gars pour sauver celle d'un seul type?
20 degrés. Quelqu'un veut répondre à ça? Ryben, t'as pensé à la mère de ce pauvre imbécile?
Eh hey Doc, j'ai une mère moi aussi. Je veux dire, t'as une mère, le sergent a une mère. Je parie que même le capitaine a une mère. Enfin, peut-être pas le capitaine, mais tous les autres ont une mère.
On n'est pas là pour réfléchir, on est là pour agir et mourir.
Ça veut dire quoi cette connerie caporal, hein? Qu'on est là pour mourir, c'est ça?
Pam voulait parler de notre devoir en tant que soldat.
Évidemment, trouvé facile.
C'est le révolutionnaire, il faut sauver le soldat Ryan.
Oui, il y avait beaucoup d'indices. Hein. 5 Oscars cette fois-ci à la clé, avec évidemment une séquence mémorable qui a fait date dans le cinéma. Après le choc des premières minutes hein, sur Omaha Beach, on
25
suit...
même, 25 minutes, c'est incroyable.
Oui, oui. 25 minutes, tu fais bien de préciser. On suit le capitaine Miller et son escouade envoyés derrière les lignes ennemies en Normandie. Leur mission donc très spéciale, retrouver et ramener sain et sauf le soldat James Ryan dont les 3 frères viennent de mourir au combat. Il faut sauver le soldat Ryan, c'est 4 millions d'entrées en France. Nouvel extrait, ça risque d'être moins facile.
Ce n'est pas le rapport complet, mais il y a quand même plus de 4000 pages.
Est-ce qu'elles sont dans l'ordre?
Je crois pas, non.
Y a pas les numéros de page.
Ouais, c'est là qu'il y avait le tampon secret défense. Ma source a été obligée de les couper.
J'étais censé partir à la retraite vendredi, moi.
Ben, explique-moi comment on peut éplucher un document de 4000 pages.
Et elles sont même pas vaguement
triées. Alors que le Times a eu 3 mois pour le faire, je vois pas comment...
Il nous reste moins de 8 heures. Il a raison.
Si on vise la deuxième édition, on a 10 heures.
Attendez. Ça fait 6 ans qu'on est à la traîne et aujourd'hui, grâce au président des États-Unis, qui, cela dit en passant, se torche avec le premier amendement, c'est nous qui avons le biscuit. Et en plus, on n'a pas de concurrence. Il y a de quoi faire des dizaines d'articles là-dedans. Le Times a à peine effleuré la surface. Le bouclage est dans 10 heures, alors on attaque.
Alors c'est trouvé toujours par toi, Guillaume.
Eh bien, c'est un film qui est assez proche, mine de rien, de Disclosure Day. C'est Pentagon Papers.
Oui, film de 2017 avec Meryl Streep et Tom Hanks. Le film nous plonge en 71 au cœur de la rédaction du Washington Post. La première femme directrice de la publication et son rédacteur en chef risquent leur carrière et leur liberté pour publier des documents secrets d'État révélant les mensonges du gouvernement américain sur la guerre du Vietnam. Un film vraiment remarquable, autant pour les journalistes que pour ceux qui apprécient la liberté d'expression. Pentagon Paper, 1,3 million de spectateurs en France. Allez, nouvel extrait, nous cherchons un film de Steven Spielberg.
Dites-moi comment...
Chut, ils dorment.
Pardon.
Dites-moi comment ça marche.
Le lait photon agit à la fois comme liquide nutritionnel et conducteur. Il améliore les images que chacun d'eux reçoit. Nous appelons la femme Agatha, les jumeaux sont Arthur et Dachel. Nous scannons par le moyen de la tomographie optique. De minuscules points lumineux courent sur toute la longueur du couvre-chef et sont relus après absorption par le tissu cérébral. En d'autres termes, nous voyons ce qu'ils voient. Ils ne ressentent aucune douleur. Nous leur bourrons le crâne de dopamine et d'endorphine. De plus, nous maintenons un contrôle attentif sur leur niveau de sérotonine. On ne veut pas qu'ils tombent dans un sommeil trop profond. On ne peut pas non plus les garder éveillés.
Il vaut mieux ne pas les considérer comme des humains.
Alors, trouvez, il y avait des indices.
C'est Minority Report.
Eh oui, film de science-fiction, là, pour le coup. Hein, film de 2002, j'ai essayé de choisir, d'ailleurs, différents styles hein, de films. Là, on est dans la science-fiction, on est à Washington en 2054, et grâce à 3 voyants, les précogs de la police peut arrêter les criminels avant même qu'ils ne commettent leur forfait. Alors, tout va bien pour le chef de l'unité John Anderton, jusqu'au jour où la machine prédit que c'est lui qui va tuer un inconnu dans 36 heures. Évidemment, il doit faire éclater la vérité. Minority Report a conquis 3,7 millions de spectateurs en France. Nous écoutons le dernier extrait de ce blind test.
Démontez-la, c'est trop dangereux!
Elle dit que les fondations ont été mal coulées et qu'il faut démonter la charpente. Allez, je lui ai pourtant dit que c'était des baraquements, que c'était pas un hôtel de luxe. Putain de salope d'ingénieur juive. Putain de salope!
Air Commandant! Ah. On doit démonter toute la charpente et toute la fondation doit être recoulée. Sinon, il y aura un affaissement très net à la façade sud du baraquement. Affaissement et ensuite écroulement.
Vous êtes ingénieur?
Oui. Mon nom est Diana Ryder. Je suis ingénieure des travaux publics, diplômée de l'université de Milan.
Ah, une juive cultivée, comme Karl Marx lui-même.
Alors, trouvez, il y avait des indices là encore.
Et c'était la liste de Schindler.
Oui, film de 1993. Là, cette fois-ci, on est dans le drame. 7 Oscars, cette fois-ci, hein, dont meilleur film, meilleur réalisateur. Spielberg y raconte l'histoire vraie d'Oskar Schindler, un industriel allemand membre du parti nazi qui va utiliser sa fortune et son usine de vaisselle émaillée pour sauver plus de 1100 juifs des camps de la mort en les embauchant comme ouvriers. La liste de Schindler, c'est 2,6 millions de spectateurs. Ainsi s'achève ce blind test. On aurait pu jouer avec beaucoup de films, hein, puisque Steven Spielberg en a fait plus de 40, et il y en a peut-être 3 ou 4 achetés, mais sinon, tout le reste, on peut se le regarder. Allez, on parle d'une ressortie dans un futur dominé par les cyberimplants et l'intelligence artificielle. Une enquêtrice traque un hacker insaisissable aux frontières du réel et du numérique. C'est Ghost in the Shell.
Bah oui, c'est le film est bien.
This is Cinerama.
Oui, c'est bien mon avis.
Alors il est important de revenir sur ce film parce que à l'occasion de sa ressortie en salle, Ghost in the Shell apparaît plus que jamais comme l'une des œuvres fondatrices de la SF moderne. Lorsque le film de Mamoru Oshii arrive sur les écrans en 95, il faut se rappeler que l'animation japonaise reste encore un terrain largement méconnu du grand public occidental qui résume ça en japonaiserie. Après le séisme provoqué par Akira en 89, Ghost in the Shell va définitivement imposer la japanimation comme un art capable de rivaliser avec les plus grandes productions de SF mondiales. Mondiale. Son influence est aujourd'hui presque impossible à mesurer tant elle est immense, à commencer par le très connu Matrix, dont les Wachowski reprendront aussi bien les questionnements philosophiques que certaines scènes et concepts.
Mais pas à cause de moi, ils ne pouvaient pas me voir.
Ils m'ont sûrement repéré quand j'ai pénétré dans le réseau du service assainissement.
Allez prendre la porte de derrière.
Ça suffit, arrêtez-les.
Alors c'est marrant que tu aies mis cet extrait parce qu'on entend la voix du doubleur Daniel Beretta qui double Schwarzenegger, qui a joué le Terminator pour Cameron. Et justement, je voulais dire que à l'époque, le prestige du film est tel que le nom de Cameron figure même sur les affiches internationales pour soutenir le film. C'est une première. C'est un soutien, bien sûr, loin d'être anodin. La même année, le réalisateur de donc Terminator et Aliens co-signe le scénario de Strange Days, autre sommet du cyberpunk hanté par les mêmes interrogations sur la technologie, la mémoire et la conscience. Le ghost du titre, c'est cette part insaisissable qui subsiste lorsque le corps devient remplaçable. L'âme, l'esprit, la conscience, qu'est-ce qui fait de nous un être unique alors que nos souvenirs peuvent être manipulés, nos membres remplacés et notre cerveau connecté en permanence à un réseau mondial ? Bienvenue dans le transhumanisme tel que le fantasme Elon Musk.
Il porte un camouflage thermo-optique.
Ne le lâchez pas, je vais passer par le haut. Babouza, au lieu de te trémousser dans les ordures, arrête ces éboueurs.
Bien, patron. Avec plaisir.
Et là, on entend la voix française de Sigourney Weaver.
Ouais, autre grande pointure passée chez Cameron aussi. Et face à ce cyberpirate, du nom révélateur de Puppet Master, le corps du major Kusanagi, lui, devient artificiel. Plus se pose la question de l'identité. Sommes-nous la somme de nos souvenirs, de notre enveloppe physique, de notre conscience, ou sommes-nous autre chose encore ? Alors le cinéaste poursuivra d'ailleurs cette réflexion quelques années plus tard avec l'extraordinaire Avalon, autre chef-d'œuvre visionnaire à consacrer aux frontières poreuses entre réalité virtuelle et conscience, passé par Cannes d'ailleurs. Ghost in the Shell était déjà l'un des premiers films du 21e siècle, parfaite symbiose de tout un pan de la littérature de SF et cyberpunk, et a tapé si fort qu'il garde 30 ans après sa sortie son pouvoir de réflexion sur les simulacres et les simulations cher à Baudrillard, toujours autant d'actualité à l'heure de l'IA.
Merci. Référence à Baudrillard qui est aussi dans Matrix. Eh oui, effectivement.
C'est le livre dans lequel cache les choses que Neo a chez lui au tout début.
Eh oui.
Terminé pour aujourd'hui.
Pardon ?
J'espère que nous aurons le plaisir de vous revoir.
Ça ne servirait à rien de le nier.
On se retrouve la semaine prochaine, toi Guillaume, tu auras au moins deux films.
Oui, je vous parlerai de Backrooms et de Iga, la mouche vengeresse.
Et puis on reviendra avec un blind test à nouveau. À la semaine prochaine.
Maison, téléphone.
This is Cinerama. 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 Cinerama.